Alors bonjour, nous sommes en entrevue avec Claude Généreux, secrétaire trésorier national du SCFP. Claude, bonjour.
Salut Pierre.
Avec la plus récente crise économique, avec le retour des déficits publics, les gouvernements, évidemment, sont tentés de couper dans les services publics, de réduire les avantages de leurs employés. Comment on devrait réagir?
Mais la première des choses, c'est de ne pas accepter les prémices qui expliquent ces actions-là. On n'est pas d'accord avec les conclusions, on n'est pas d'accord du tout qu'il y a une crise, qu'il y a une crise budgétaire, puis qui commande ces actions-là. Mais il faudrait que je recule un petit peu en arrière puis dire d'abord, nous n'avons pas créé la crise. Les travailleurs, les travailleuses, la classe moyenne, dans tout le pays, sur tout le continent, sur la planète, en fait, n'a pas créé cette crise-là. Il y a une opération d'amnésie qui est en train, d'amnésie collective, une tentative d'amnésie collective qui est créée en nous disant que nous avons une crise budgétaire, puis il faut couper, c'est les budgets de l'État, il faut donc couper dans les dépenses de l'État, il faut attaquer les travailleurs et les travailleuses qui donnent les services publics, les travailleurs et les travailleuses syndiqués des secteurs publics. Mais là, ça vient d'où cette crise-là? Si tel est le cas qu'il y a une crise, elle vient d'où? Et c'est là l'amnésie. Ça vient de 2008, la grande crise financière du capital qui a été créée par le capital lui-même. Et le fait qu'ils sont venus nous voir la main tendue vers le gouvernement. C'est drôle, les profits sont privés, mais quand il y a des pertes, c'est public, c'est socialisé, c'est comme une assurance. Ils sont venus voir les gouvernements, ils nous ont dit, venez nous sortir du pétrin, sortez-nous du trouble, donnez-nous des subventions. J'aime bien le verbe en anglais, bail us out, sauvez-nous, payez-nous. Alors, on les a payés avec les deniers publics, et c'est ce qui a créé momentanément des déficits. Moi, je dis momentanément parce que ce n'est pas des déficits structurels parce que l'économie est mal organisée, les administrations sont mal organisées. Il y a des programmes qui coûtent trop cher. C'était momentanément, il a fallu sortir du trouble dans lequel ils s'étaient mis eux-mêmes, les gens de Wall Street, les gens de Bay Street, les boursicoteurs du monde. Ceux qui sont plus intéressés à faire de l'argent en spéculant qu'en faisant de l'argent, en créant de la vraie richesse, en créant des vraies affaires. Il n'y en a plus de General Electric là, qui font des grille-pain. C'est plus de ça qu'il s'agit, là. On spécule avec ces fonds de couverture-là qu'ils appellent les hedge funds. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Et c'est momentané. Puis il n'y a pas de crise structurelle, encore une fois. C'est des montants énormes, mais ce n'est pas une crise budgétaire des administrations publiques que sont les gouvernements.
Ben, c'est ça, mais depuis quand même un bout de temps, on entend que les gouvernements n'ont plus d'argent, que les gouvernements n'ont pas d'autre choix que de couper. Donc, est-ce que c'est vrai cette rhétorique-là, dans le fond?
Quand on parle du Canada, c'est faux, complètement faux. Le Canada sera l'élève modèle pour tous les pays européens demain matin si le Canada, on changeait la configuration de la Terre, puis on pouvait changer les cartes artificiellement, puis le Canada se retrouverait en Europe. On serait le meilleur élève. Il est vrai que certains pays ont plus de difficultés en Europe, notamment dans les économies développées, là. On a entendu parler de la Grèce et de l'Italie, de l'Espagne et de l'Irlande. Il y avait un peu plus de dépenses dans des économies nouvellement vigoureuses. Elles n'avaient pas des assises suffisamment solides pour essuyer la première vague. Au Canada, ce n'est pas le cas. On a des déficits qui seront épongés très rapidement. Ils ne sont pas structurels. Nous ne sommes pas la Californie, là. Et parfois aussi, je dois vous dire, comme l'Ontario, c'est le plus grand des déficits, ils vont prendre 7 années pour revenir, passer du rouge au noir, revenir en équilibre budgétaire. Il n'y a pas de crise. C'est un coup dur à essuyer pour le moment. Oui, je le dis, un coup dur, mais ce n'est pas du niveau d'une crise, parce qu'une crise, on dit, ce que ça veut dire une crise, c'est qu'il n'y a pas de solution. On perd le contrôle et on prend des mesures radicales. On n'a pas besoin de mesures radicales, on n'a pas perdu le contrôle, ce n'est pas la Californie. Et je dois vous dire, d'ailleurs, lorsque je parle d'État américain, je pense au Wisconsin qui est plus près. Le Wisconsin, on en entend parler à toutes les minutes, pas seulement qu'à tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes. Le Wisconsin n'avait pas de déficit lorsque le présent gouverneur de cet État a été élu. Il n'y avait pas de déficit, je le répète. Il a créé le déficit. Comment l'a-t-il créé? Non pas en établissant des nouveaux programmes de services publics à la population qui demandait plus de dépenses. Non, non. Il a décidé de couper dans l'impôt aux compagnies. Il a donc créé lui-même cette crise. Il a décidé de l'appeler une crise, mais il a créé ce déficit et donc. Il s'est créé lui-même, chevalier servant qui doit aller au-devant des troubles et des crises, puis trouver des solutions radicales. Et donc maintenant, on l'a vu, pas juste couper dans les dépenses, couper dans les syndicats. Parce que Il y a une manœuvre. Au moment où nous nous parlons, nous sommes à la mi-mars. Ce gouvernement-là a décidé, c'était un projet de loi qui s'appelait un Relief Bill, qui était financier. Or, il ne pouvait pas voter ce projet de loi-là s'il n'avait pas le quorum nécessaire. Il a décidé de changer le quorum en changeant la nature de ce projet de loi-là, qui est plus financier, qui est une pure attaque contre les droits des travailleurs. Et Paul Moyse, notre président national, il y était en fin de semaine dernière. Et quand le chauffeur de taxi, la personne qui travaille le guichetier à l'aéroport, toutes les personnes qu'il rencontre disent: j'aimerais être à cette manif, j'aimerais ça être à cette manifestation-là, parce que c'est la classe moyenne qui est attaquée. Alors les gens ne sont pas dupes. Ils attaquent les syndicats parce que c'est la classe moyenne qu'ils attaquent. Il y a une classe moyenne qui ne travaillera plus chez GM, mais une classe moyenne qui va travailler chez Walmart et McDonald's en n'étant pas syndiqué, bien sûr, en n'ayant pas de bon salaire, en n'ayant pas de caisse de retraite. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de crise budgétaire, c'est une attaque en règle. Puis je ne comprends pas comment on peut penser que les États-Unis seront une économie florissante et la première économie au monde en voulant attaquer la classe moyenne de cette manière.
Parlons un peu ici au Canada. Au moment où on enregistre cette conversation, on ne sait pas encore s'il va y avoir une élection fédérale. C'est probable, cependant, que quand les gens vont nous écouter, on va être en cours d'une campagne électorale fédérale. Est-ce que selon toi, le thème de l'équité fiscale devrait être un thème important d'une campagne, peu importe le moment où elle sera?
Absolument, c'est un sujet qui est parfois sec, abrupt, technique, et des gens vont aimer rendre ça encore plus technique parce que ça décourage parfois la participation citoyenne à ces élections-là qui sont leurs élections. Mais c'est le sujet pour moi de l'heure. Dans ma jeunesse, dans les années 60, l'impôt qui était payé par tout le monde, ben, on payait comme citoyen, citoyenne, on payait deux fois moins que les compagnies dans les années 60. C'est simple, ça, hein? Je ne fais pas ça trop technique. Nous payions à l'époque deux fois moins d'impôts que les compagnies. Aujourd'hui, on se parle, c'est le contraire, on en paye deux fois plus. Mais ce qui est le drame, c'est que ce n'est pas encore assez pour Harper, pour Flaherty, puis pour ces gouvernements-là. Ce n'est jamais assez. Il faut parler donc d'impôts, puis d'une équité dans l'impôt. Tout le monde doit payer son impôt. Mais les compagnies, ce n'est jamais assez. Harper aime ça comparer les États-Unis, le Canada aux États-Unis. En matière d'environnement, quand on parle de politique sur l'environnement, il faut s'aligner avec les États-Unis, c'est notre plus proche voisin. En termes d'impôts, les compagnies américaines, présentement, au moment où on se parle, avant même les prochaines actions de Harper, parce qu'il n'a pas fini de vouloir couper dans les impôts aux compagnies, ça ressemble un peu au Wisconsin, ça. Il y a un déficit, puis je vais couper de l'impôt aux compagnies. Un plus gros déficit. Là, on n'est pas en surplus, là. Il y a un déficit, il manque d'argent, puis il dit, je vais en recueillir encore moins présentement. Puis Statistique Canada, qui n'est pas un organisme de gauche, qui est un organisme de son gouvernement, nous dit que ce n'est pas la méthode pour retrouver l'équilibre budgétaire. Mais si je reviens à l'impôt et à une équité en impôt, en Europe, ils vont instituer, au moment même où on se parle, alors qu'il y a plusieurs économies qui vont mal, qu'il y a des déficits, ils vont instituer une taxe sur la transaction bancaire à travers toute l'Europe. Ça, on n'entend pas parler ici même. Je n'ai pas lu ça dans des journaux. Je n'ai pas entendu cela, ni à la radio. Je ne l'ai pas vu à la télé. Mais ça va être institué cependant. Donc, c'est possible d'établir une fiscalité qui ne tue pas l'économie, qui ne tue pas même les spéculateurs, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est les spéculateurs. On va leur en faire payer un petit peu. Maintenant, ils n'en paient aucunement. Mais les États-Unis, avec lesquels on se compare, je disais tantôt, paient un taux, les compagnies là-bas paient un taux combiné de 40% d'impôts, 39,5 pour être précis. Ça, c'est le taux fédéral et le taux de l'État dans lequel où la compagnie se retrouve, son siège social par exemple. Ça peut être le Wisconsin, ça peut être la Californie. Pendant ce temps-là, au Canada, le taux combiné provincial et fédéral n'est pas de 40%. Ça dépend dans quelle province nous sommes, mais en moyenne, dans les provinces, c'est 10% que les compagnies payent. Et on le sait maintenant, là, c'est un sujet pour l'élection fédérale. On est à 16,5, on s'en va à 15%. On paye même pas 30%. Donc, les États-Unis, 40%, tout près de 40%, 39,5, et nous, 29,8, c'est pas 30%. Il y a 10% d'écart. 10% d'écart pour une compagnie, c'est pas un point là, qu'on parle d'impôt de différence. C'est pas deux points. Là. Un plein 10%, c'est un autre univers. quand il parle de comparable, on est dans un autre univers. On est des années-lumière plus compétitif, ce pays-ci, en termes d'impôts pour les compagnies. Alors, qu'est-ce que ça va prendre? Quand est-ce que ça va être assez? Ou, il dira en anglais, How low can you go? Combien bas peut-on aller? Et il veut continuer à aller plus bas. J'étais en Saskatchewan en début mars et il y avait un débat qui faisait rage. Parce que là, on parle d'impôts, mais c'est aussi ce que les compagnies devraient payer dans son ensemble comme citoyen corporatif. Potage, une grande compagnie, paie des redevances, d'énormes redevances. Ça semble être d'énormes redevances, mais quand on regarde les profits, qui sont des milliards, je pourrais dire la même chose, par exemple, Hydro-Québec, qui est une compagnie d'État, une société d'État, qui paie ses redevances justes. Un bon pourcentage de redevances à son actionnaire principal, qui est le gouvernement du Québec, qui permet d'avoir un budget équilibré. Mais Potash, en Saskatchewan, ne paie que 5 % de redevances. 5 %. 5 sous. Un petit castor dans le dollar. 5 sous dans un dollar. Là, on ne demande pas de faire comme Kadhafi, qui va chercher jusqu'à 50 % de redevances pour le pétrole qui est extrait sous son sol. Mais entre 5 sous dans le dollar, puis 50 sous dans le dollar, il y a des normes ailleurs où qu'on pourrait vérifier que ce serait très raisonnable d'avoir 10, 15, 20, 25 sous dans le dollar. Et la rebuffade que souhaitait servir Potash, qui était sa réplique officielle au NPD en Saskatchewan, c'est-à-dire, c'est pas vrai ce que vous dites que nous payons que 5 sous dans le dollar. Nous payons, au total, redevances et impôts inclus, 15 %. Alors moi, je suis tombé, j'étais pantois. Je ne dirai pas là où je suis tombé, je suis dans une entrevue. Vous vous en doutez. Sûrement derrière, pour le dire poliment. 15 % de redevances et d'impôts total. Ça inclut l'impôt 15 %. Alors, pour ceux et celles qui m'écoutent ou qui me lisent, je vous demande, est-ce qu'on vous retire 15 % au total juste en impôts? C'est plus que ça. Beaucoup plus que ça. Eux, c'est impôts et redevances combinées. Il y a lieu, là. On ne les mettra pas à terre, puis on ne les mettra pas en faillite en augmentant cela. Alors, voilà déjà là une solution. Si jamais on parlait de problèmes de revenus pour les budgets des gouvernements provinciaux ou fédéraux, il y a là des solutions. Facile, facile. Et Potash, s'ils nous disent qu'ils veulent se sauver, ils ne pourront pas se sauver avec la potasse. Ils ne pourront pas s'en aller aux îles Caïmans, dans les Antilles, avec ça. Qu'ils s'en aillent dans les paradis fiscaux, la ressource va rester là où elle devrait rester, en Saskatchewan, pour le bénéfice des citoyens et des citoyennes de Saskatchewan. Ça me fait penser à. C'est un recul. On est comme dans un autobus reculé par en arrière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sur la côte nord québécoise, dans les années 50, le premier ministre d'alors, M. Duplessis, était fier d'annoncer qu'il avait extrait des compagnies minières aurifères un sou la tonne en redevance. Moi, je me disais, ben, un sou la tonne. On ne peut pas aller plus bas que ça, parce que le sou est la plus petite dénomination. On ne peut pas couper le sou en deux. Un sou. Un sou. Qu'est-ce qu'un sou aujourd'hui? Mais ben, c'est potache, 5 sous dans le dollar. Surtout que si le sou disparaît, comment ferons-nous pour couper le 5 sous? C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas aller plus bas que ça. Il faut juste aller, on peut juste donc aller dans la direction opposée, la direction inverse. Plus de redevances, plus d'impôts pour les compagnies. Alors Harper veut continuer en disant qu'une théorie supposément économique n'est pas vérifiée, que ça créerait de l'emploi. Ça n'a pas été vérifié. Son principal idéologue est Jack Mintz, à Calgary, qui nous dit que ça va créer de l'emploi. 100 000 emplois dans 7 ans. Moi, je dis à un chômeur, ne retenez pas votre souffle parce que 7 ans, c'est long. Alors qu'on sait qu'immédiatement, si on investit non pas dans des coupures d'impôts qui créaient possiblement des emplois en 7 ans, ça va créer de l'emploi immédiatement, ça va être bon pour l'économie immédiatement, mais ça va être bon aussi pour nos communautés parce qu'il va y avoir des services publics, il va y avoir des investissements dans les infrastructures. Et ça va créer des milliers, des dizaines de milliers d'emplois de plus si on se. Gouverne de cette manière. Et qui l'a dit? On n'est pas Claude Généreux, parce que là, je fais le perroquet, je répète des études de Statistique Canada. Et Statistique Canada, ce n'est pas la gauche. L'impôt, quand ça va s'arrêter, ça? Bien, à l'élection, il faut qu'on exerce notre choix et qu'on dise que ça cesse cette folie. L'OCDE, qui est l'Organisme de coopération et de développement économique, ça aussi, ce n'est pas un organisme de gauche. C'est l'organisme parapluie des 32 plus grandes économies mondiales. Elle a dit récemment, si nul n'est prophète en son pays, je vais arrêter de citer Statistique Canada, je vais citer l'OCDE qui nous dit que le Canada présentement est l'économie des 32 États de l'OCDE, la 23e économie où on paie le moins d'impôts pour les compagnies. Alors, 23e, il y en a 22. 22. Qui payent plus d'impôts pour les compagnies. Là. Quand on nous dit, écoutez, ils vont aller dans d'autres pays, et ces compagnies-là, si on leur fait payer plus d'économies, ils ont. Écoutez, là, je veux pas non plus m'attaquer aux compagnies, c'est pas ça. Là. Je veux surtout m'attaquer aux politiques de Harper. Il faut que ça cesse. Et l'élection sera une bonne occasion, effectivement, pour mettre un terme à cette direction-là, où on nous amène. Quelle est cette direction-là? Celle de l'anorexie fiscale. On coupe, on coupe, on coupe, on diminue le gouvernement. Et on n'aura pas de possibilité d'avoir les services publics auxquels on a droit. Puis on réduit le gouvernement à une compagnie. On a de l'argent, puis on n'a pas besoin de tant que ça. On veut diminuer la dimension de la compagnie. Un État, un gouvernement, ce n'est pas une compagnie. Ce n'est pas le but du gouvernement. Et je suis bien content qu'il y ait une élection. Puis si elle n'est pas fédérale, il y en aura au moins 5-6 élections provinciales cette année. Alors, nous sommes dus pour avoir cette conversation-là, pour avoir cette campagne-là, pour avoir ce vote-là, pour commencer à changer la direction où les choses s'en vont présentement.
Merci beaucoup de cet entretien et espérons que le SFP et ses membres vont pouvoir influencer le débat dans ce sens-là. Merci
Je
beaucoup.
nous le souhaite. Merci beaucoup, Pierre.